9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Tramer Gemener.
Bonjour.
J'ai le plaisir de vous recevoir ce dimanche matin parce que au cours de ce mois de mars, ça n'aurait échappé ni à vous, ni aux auditeurs et aux auditrices que ce 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie, diront certains, de l'indépendance, en diront d'autres, vous vous en doutez. On reviendra justement sur l'appellation de ce que fut cette guerre d'Algérie et guerre d'indépendance pour les Algériens. Il est question dans ce 60e anniversaire donc d'une production très très importante de livres, de documentaires cinématographiques, de fiction cinématographique, de documentaires télé, on y reviendra, je donnerai les rendez-vous. Et c'est important que s'inscrive 60 ans après à nouveau cette histoire de la guerre d'Algérie, donc, et le titre de votre livre, Tramer Gemener, La guerre d'Algérie en direct, les acteurs, les événements, les récits, les images. C'est un livre qui est coédité par les éditions Historia et les éditions du Cerf. Il est présenté par Philippe Labro et vous-même. Et ce livre est important parce qu'il est le travail colossal que vous avez fait pour nous le présenter. Mais vous présentez-vous d'abord, Tramer Gemener. Je rappelle que vous êtes historien, vous êtes spécialiste international reconnu de la guerre d'Algérie, dit votre biographie. Enfin, vous avez édité cet album important qui vient de paraître. Vous êtes aussi membre de la commission Mémoire et Vérité, qui est cette commission qui a mis en place, qui a instauré suite au rapport qu'on a appelé maintenant le rapport Stora, le rapport de Benjamin Stora, qui avait été remis au président de la République, donc de construire, de mener un groupe de gens, historiens, groupe mémoriel aussi, qui vont travailler et s'acheminer vers ce qui va être une réconciliation, ou en tout cas un travail de mémoire de ces groupes mémoriels. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Celui-ci est important, La guerre d'Algérie en direct, 400 pages. Hein, je rappelle dans un instant de quoi il s'agit. Et vous avez publié aussi précédemment quelques ouvrages aussi qui vont rappeler votre travail autour de cette guerre d'Algérie, puisque vous aviez publié avec Benjamin Stora aussi un très bel album avec des images d'archives et des témoignages et des documents papier qui étaient intégrés dans le livre. On appelle ça un livre-objet, mais qui était tout à fait un livre intéressant puisqu'il donnait à comprendre là aussi l'histoire de la guerre d'Algérie autrement que par un classique livre d'histoire sur la guerre. Vous avez publié aussi des contributions avec Slimane Zeghidour autour du livre L'Algérie en couleur qui était de 54 à 62 paru chez le même éditeur. Cet éditeur étaient les éditions Les Arènes. Enfin, vous m'avez apporté là aussi, en plus de ce gros livre, et je m'y arrêterai tout au long de cette émission, La guerre d'Algérie en direct, Mourir à sa quête, qui est une enquête sur un appelé dans la guerre d'Algérie, qui est paru aux éditions PUF. Et on reviendra aussi sur le tout nouvel Historia, puisqu'on va parler du précédent Historia, qui s'appelle Guerre d'Algérie, le choc des mémoires, les faits, les acteurs, les témoignages, qui est un livre spécial guerre d'Algérie, 60e anniversaire. Voilà pour l'introduction et dire de quoi il s'agit dans notre rendez-vous ce matin. La guerre d'Algérie en direct, qu'est-ce que c'est? Comme il s'agit d'histoire, il faut se rappeler justement que l'histoire de cette publication d'Historia, elle a commencé en 1971 et c'était à l'initiative d'un journaliste et non d'un historien, on reviendra justement journaliste, historien aujourd'hui, et c'était la revue Historia qui commande à Yves Courrière, un grand monsieur journaliste, un reportage sur la guerre d'Algérie. Il est alors en Algérie pendant la guerre. Le travail de cet Historia va durer près de 3 ans avec une édition hebdomadaire, je crois, près de 128 numéros avec des archives, des photos, des témoignages, des commentaires. C'est un succès immense qui n'a pas en mémoire sa collection de numéros d'historiens pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, français et algériens, souvent précieusement conservés. Et je me permets justement de dire que mon père conservait, après lecture, précieusement lui aussi, en bas de son armoire, tous les numéros d'historiens. C'est dire si ces numéros d'Historia, je le rappelle, 127 numéros, étaient importants dans la mémoire collective sur ces questions de la guerre d'Algérie, parce que ce devait être, il me semble, le document le plus important, le plus fourni à l'époque de cette parution sur la guerre d'Algérie. Tramer Gemener, vous avez donc travaillé La guerre d'Algérie en direct, 400 pages aujourd'hui. 500 pages, vous voyez. Enfin, en tout cas, il est très lourd. Il est très lourd d'histoire, il est lourd d'iconographie, de témoignages, de récits et de cartes aussi. Donc, il donne à comprendre et à connaître l'Algérie dans sa dimension de 54 à 62. Et il est surtout la somme de travail de titans que vous avez mené pour rassembler en 500 pages ce qui fut 127 numéros hebdomadaires pendant 3 ans.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été un travail qui m'a, évidemment, gros travail, mais qui m'a énormément plu aussi, de replonger finalement dans alors c'est vrai que c'est difficile de s'imaginer, mais ce sont 8 volumes en tout reliés de numéros d'Historia qui sont parus au début des années 70. 8 volumes, 3700 pages, 128 numéros. Enfin, c'était toutes les semaines, toutes les deux semaines que ça sortait. Et oui, pour beaucoup, ça a été un moment très important. Les gens se sont vraiment... quelque part, c'était un peu... on venait de quitter cette guerre. Les gens manquaient de compréhension, finalement, aussi, par rapport à cette...
De connaissances.
De connaissances, ouais, tout à fait, par rapport à la guerre qu'ils avaient vécue. Et donc, des visions très parcellaires, une impression de ne pas... maîtriser ce conflit. Et là, pour la première fois, en fait, on a eu, et c'est vraiment polyphonique, c'est-à-dire que ce sont en tout 150 journalistes et témoins et acteurs et voilà, de tout type de personnes, historiens aussi, puisque Charles Robert Ageron a publié le premier historien, on va dire, vraiment de l'Algérie, le directeur de thèse
de Benjamin Star, absolument,
ouais, ouais. Donc qui a publié un article aussi qui ouvre le livre d'ailleurs sur ce sujet-là. Et pour la première fois, quelque part, la guerre d'Algérie venait à être mise en compréhension vraiment pour toutes les personnes qui l'avaient vécu. Et donc ça a été une somme de travail aussi colossal à cette époque-là. Et donc, et en même temps, voilà, c'est quelque chose qui a été un peu oublié, perdu, enfin qui traînait encore, évidemment, hein, que les gens conservaient, qui étaient dans les armoires, dans les bibliothèques, qui étaient conservées, et mais qui, au bout du compte, enfin qu'on trouvait encore aujourd'hui chez les
bouquinistes, sans doute,
bien sûr, et qui s'échangeaient, même c'est pour les 8 volumes, ça pouvait s'échanger même à plusieurs centaines d'euros, hein. Donc ça commençait à devenir quelque part aussi un objet de collection difficilement trouvable, et donc en même temps il a fallu retrouver aussi ça et redonner toute l'actualité, parce que on replonge qu'effectivement dans une guerre d'Algérie en quasi direct, puisque elle a été écrite à peine 10 ans après, et surtout par des personnes qui l'ont vécu, quoi.
Alors vous êtes historien aujourd'hui, grand historien, Tramer Kemener, une relève de l'historien sur la question de la guerre d'Algérie. Vous avez pas connu, je crois, Yves Courrière, mais en tout cas, ça a été, dans vos études, ça a été des livres de chevet, les historiens.
En tout cas, alors, moins Historia, parce que Historia se trouvait plus difficilement, comme c'était une revue, et où on en trouvait par-ci, par-là, quelques numéros, les collections entières, c'était rare, très rare. Donc, du coup, effectivement, sur énormément de sujets, sur tous les sujets, en fait, il y a eu un article qui est paru par-ci, par-là, et donc, ça pouvait être intéressant de retrouver, effectivement, ces traces-là. C'est aussi Yves Courrière, alors, c'était quelqu'un...
Journaliste, reporter en Algérie.
Voilà, ouais. Il a participé à la guerre d'Algérie en tant que tel aussi, au sein de l'armée française. Il a couvert en tant que journaliste la guerre d'Algérie aussi. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment
au plus près.
Ouais. Et donc il a vraiment couvert même tout le territoire algérien. Donc une fine connaissance et c'est sur ce conflit donc qu'il a évidemment beaucoup touché. Il est revenu rapidement et il est revenu d'abord avec ses 4 volumes. Qu'il a publié ces 4 livres très connus qui ont été publiés à 1,5 million d'exemplaires en tout. Et c'est quelque part aussi souvent par cela en fait qu'on entrait dans la lecture de la guerre d'Algérie. Donc ça fait partie des grands classiques en quelque sorte, avec une écriture très romancée, avec des paroles prêtées aussi aux acteurs de l'époque. Donc
que ça soit des appelés, que ça soit des Algériens, des militaires.
Oui, voilà. Ouais. Par exemple, c'est aujourd'hui connu que c'était lui qui a le premier parlé du général Ossarès, le fameux commandant O dont il est question dans ses livres. On sait aujourd'hui que c'était le général Ossarès dont le parcours a été évidemment connu du grand public au moment de l'affaire Ossarès avec la question de la torture. torture. Donc au début des années 2000. Donc voilà, en même temps, vous voyez, c'est quelqu'un qui a couvert et qui a rencontré énormément de personnes dès les années 60. Fin 60, le premier volume sort des livres. Et donc, il enchaîne les quatre livres. Et au moment où il termine les quatre livres, il revient d'une manière différente avec les historiens sur justement tout ce conflit-là. Et là, en fait, c'est une manière complètement différente de traiter, puisque ce sont des personnes différentes qui vont traiter de points particuliers avec des grands noms du journalisme et d'autres qui vont couvrir toute la guerre d'Algérie, mais avec plein de sujets très précis, très pointus et très différents.
On peut dire qu'il y a un parti pris d'une certaine manière, où il y a les faits à dire et à exploiter seulement.
Alors, c'est beaucoup, il revient beaucoup sur les faits, justement. C'est l'avantage, en fait, de ce traitement, c'est vraiment cette polyphonie. Effectivement, on va trouver, en fait, des Algériens, des militaires français, des journalistes, des plutôt...
Des figures de l'histoire, des figures intellectuelles aussi.
Exactement, des figures de l'histoire, des figures intellectuelles. Donc, il y a vraiment toute cette polyphonie, c'est ça qui est intéressant de voir aussi. C'est les points de vue des différentes personnes. Parfois, on peut avoir différents points de vue sur un seul et même événement.
Alors, il y a les textes journalistiques ou historiques, mais très peu, vous l'avez rappelé, c'est du reportage dans les historiens. Et il y a une iconographie, une somme de photos, de cartes, de tableaux aussi, tableaux quelques-uns quand même. C'est aussi important à l'époque de montrer la guerre.
Oui, complètement. Et c'est d'une richesse iconographique effectivement gigantesque. Alors il y a beaucoup de lectures, quasiment pour plagier un slogan célèbre, on pourrait dire le poids des mots, le choc des photos, puisqu'il y a les deux en fait. Il y a à la fois du texte, mais qui se lit très très bien. Donc ce sont des articles
tout à fait accessibles.
Tout à fait accessibles. On plonge à chaque fois très facilement et très agréablement, je trouve. C'est pas moi qui les ai écrits. Donc dans les textes. Et en même temps, on a une visibilité effectivement de tous les événements, à la fois en tant que tel les événements, et puis aussi l'iconographie, on va dire, de toute l'Algérie, les rues d'Alger,
les villages en Kabylie, voilà. Les villages du Sud, en fait tout y est. Ouais, toute l'Algérie est représentée en iconographie effectivement.
Et avec des légendes aussi qui permettent de quasiment la deux lectures en fait, la lecture par l'image et par les légendes qui sont très très agréable et très courte, et puis la lecture évidemment des textes en tant que tel. Donc on a deux niveaux de lecture dans ce livre.
On vous retrouve, Tramer Kemener, vous parlez passionnément de cette guerre d'Algérie, c'est une histoire importante pour vous dans votre travail d'historien et dans ce livre qui vient de paraître, La guerre d'Algérie en direct, un livre coédité par les éditions Historia et Le Cerf. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin à Voix au chapitre. Je rappelle que je reçois Tramer Kemener et nous parlons de La guerre d'Algérie en direct. C'est le titre de son ouvrage qui vient de paraître aux éditions Historia et Cerf. Les acteurs, les événements et les récits et les images. C'est un gros livre, 500 pages, qui est la reconstitution, j'allais dire, en un volume de 500 pages, c'est assez lourd, je l'ai dit, qui reprend par chapitre, en chronologie, toute l'histoire de la guerre d'Algérie. Mais dans ces près de 127 volumes d'Historia hebdomadaires ou bimensuels, c'était difficile de faire cette sélection, de faire ce tri. Enfin, pas un tri, mais une sélection, en tout cas.
Ah oui, il y a des moments, c'est assez terrible, parce que... Il faut à la fois essayer de couvrir tous les événements, et donc on essaye de ne rien rater, évidemment. Donc il faut être au plus proche, et puis il y a tant d'autres manières d'entrer dans le conflit, donc sur certains acteurs aussi. Donc il y a des acteurs qu'on n'a pas envie de rater. Et puis il y a d'autres types d'articles, finalement, qui ont été peut-être un peu plus sacrifiés, malheureusement. Alors, il y a certains articles sur la vie quotidienne aussi. Ça, c'est une manière d'entrer dans l'histoire qui m'intéresse beaucoup aussi. Le vécu des gens cette période-là, c'est vraiment important. Et on ne le travaille pas assez. Donc, j'aimerais bien continuer à travailler sur ce sujet-là aussi.
On reviendra, si vous le voulez, justement sur le rapport entre l'histoire et le témoignage. Qu'est-ce qui fait qu'un Algérien raconte son histoire pendant la guerre d'Algérie, que un enfant d'appelé raconte la transmission de l'histoire. L'historien se sert aussi des témoignages. Vous vous servez, vous, en tant qu'historien,
Oui, beaucoup. Ouais, c'est tout, tout.
C'est l'essentiel.
De plus en plus, c'est tout le sens de mon travail. Depuis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, le livre avec Benjamin Stora. En fait, ça a été une. Donc avant, il y avait évidemment ma thèse où j'ai beaucoup déjà sur les désobéissances de soldats français pendant la guerre d'Algérie. Pour ces désobéissances-là, en fait, j'ai rencontré beaucoup d'acteurs, beaucoup de soldats réfractaires pendant la guerre d'Algérie. J'en ai interviewé une cinquantaine hein, pour ma thèse. Donc déjà, le témoignage était quelque chose d'important. Et donc, non seulement il y a le témoignage, mais il y a toutes ces archives personnelles des gens. Et puis, avec le livre avec Benjamin Stora, on avait ouvert, qui était publié aux éditions Les Arènes, Algérie 54-62, les acteurs, les récits, les témoins, en fait, et c'était sur justement rentrer par les parcours personnels dans cette guerre d'Algérie. Comment finalement la guerre d'Algérie est aussi la résultante quelque part, en fait, faire émerger la guerre d'Algérie, comment les gens l'ont vécu en tant que tel, à partir de tous ces récits entrecroisés, en fait, et de tous les témoignages et de toutes les mémoires, en faire une histoire. Et avec aussi toutes ces archives personnelles qu'on pouvait toucher, j'essaye de continuer un petit peu sur cet aspect-là.
Mais déjà dans Historia, on retrouve un peu cette dimension. Il y a l'effet historique, incontournable, déclenchement de la guerre de libération. Pardonnez-moi, je le dis ainsi, évidemment.
Oui, bien sûr.
Déclenchement de la guerre de libération, 1954. Après, il y a l'armée, il y a tout ce qui va se passer, l'organisation militaire, etc. Et il y a aussi des encadrés avec des témoignages, même dans Historia déjà, à l'époque. Et vous le reprenez aussi, cette dimension, justement, de témoins de cette guerre. Et ce qui est intéressant aussi dans cette somme de travail que vous avez menée, c'est qu'effectivement, le livre est repris chronologiquement. Donc effectivement, on part du début de la guerre, on parle déjà de la colonisation. Vous évoquez 1830. Ce qui est important parce que souvent, quand on parle de la guerre d'Algérie, on parle de 54. Mais il faut parler de 1830,
oui,
bien
tout à
sûr.
Fait. On revient justement, on entre avec ce très beau récit de Charles Robert Ageron dans la naissance d'un peuple, en fait, et qui retrace toute la période de la colonisation. Et ça, c'est une manière d'entrer, de faire vraiment le point avec de belles illustrations aussi, de beaux tableaux d'ailleurs, de toute cette période-là.
On voit rarement, moi, j'ai découvert ces tableaux.
Très bien, tant mieux. Et je suis ravi. Et au fur et à mesure, effectivement, on continue en voyant aussi la manière dont les gens vivaient sous la période coloniale, évidemment les différentes catégories de personnes, le déclenchement de l'insurrection. Et par exemple, vous parliez des témoignages, par exemple, sur plusieurs articles, on suit l'entrée, en fait, dans les maquis d'un Algérien. Donc c'est aussi par ce prisme-là individuel qui permet d'évoquer, en fait, plus largement les parcours. Enfin, tout ce qui s'est passé, hein, les événements en général. Donc vous voyez, sur certains aspects, il peut y avoir un événement. Je pense aussi, par exemple, à quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touché de le trouver, parce que généralement, on n'en parle pas. C'est le récit du 17 octobre 61. À ma connaissance, on parle beaucoup, en fait, du début des années 80, avec, par exemple, Meurtre pour mémoire de Didier Dynx, au niveau du roman.
Le documentaire de Mehdi Lalaoui, Le silence du fleuve, et puis tout le travail qui est fait par l'association Au nom de la mémoire, qui travaille. Mais c'est vrai qu'on on commence à parler en 81, 30 ans après.
Exactement.
Alors que là, on en parlait déjà, absolument.
Exactement. Et avec des termes qui sont aussi
dénonciateurs sur la violence qui était la manifestation, absolument.
Ouais, complètement. Ouais. Et donc ça m'a vraiment intéressé vraiment beaucoup, et je dis, finalement, beaucoup de choses avaient déjà été dites dès cette période-là, et c'est bien de pouvoir à nouveau les mentionner. Donc parfois il peut y avoir des éléments, je fais aussi des contrepoints historiques en tant que tel, pour bien cadrer.
Oui, en introduction de chaque chapitre, qui sont des périodes, c'est vous qui faites l'introduction, oui. Et qui rabasse justement toute la période qui va être évoquée. C'est important aussi, ça, votre travail de
recontextualisation.
Et
ce qui permet, en fait, après, d'avoir des sortes de focus un petit peu à travers ces différents articles, 5, 6, 7 parfois, sur ces différentes périodes. Et donc, après, effectivement, qu'on a construit l'ouvrage, ça a été passionnant aussi, parce qu'il y avait la base des articles que je voulais. Et puis après, on a essayé de chercher des petits articles complémentaires pour essayer de les placer ici et là, pour essayer essayer de ne pas trahir l'ensemble, mais au contraire de donner la vue la plus large possible. Finalement, je suis assez content de l'ensemble. Après, bon, évidemment, c'est un beau bébé de 2,8 kg, c'est mon bébé, donc voilà.
C'est votre 2,8 kg, mais vous avez dit on il y a un instant, c'est parce que vous êtes aussi accompagné, ou en tout cas en complémentarité avec Philippe Labro. On va dire un mot sur Philippe Labro aussi, qui a été aussi dans ce travail de la guerre d'Algérie en direct. Il est écrivain, journaliste, il a aussi été appelé en Algérie.
Exactement,
donc l'Algérie lui tient à cœur, si, comme on dit souvent, parce qu'il a publié aussi des romans là-dessus. C'est c'est un auteur d'abord, et donc il a travaillé avec vous.
Oui, tout
donc,
à fait. Ouais,
une espèce de complémentarité à la fois d'un regard.
Il a écrit effectivement un très beau texte, je trouve. Et Philippe Labro, c'est quelqu'un, même chose aussi. Finalement, dans les tout débuts de ma recherche aussi, quand on commence à essayer d'entrer un peu dans tous ces sujets-là, Philippe Labro, avec son formidable livre « Des feux mal éteints », a fait partie des premiers livres que j'ai lus passionnément quand j'ai commencé ma recherche. Donc, je suis très heureux d'avoir pu travailler avec lui aussi. Et c'est quelqu'un qui a une belle parole sur justement toute cette période-là aussi, qui est vraiment intéressant. Donc, c'est bien d'avoir pu travailler avec lui. Ouais,
On va revenir dans la troisième partie de notre rencontre ce matin sur l'importance que revêt cette commémoration des 60 ans avec ses productions de livres d'histoire, de romans aussi, parce qu'il y a des romans qui témoignent aussi de la guerre d'Algérie par des auteurs, des autrices qui racontent l'histoire de leurs parents qui étaient dans la guerre, de grands-parents perdus, etc. Donc ça aussi, c'est important d'avoir un écho à la fois littéraire, voire culturel aussi, puisqu'il y a des productions aussi culturelles, des peintres, des photographes. Très belle exposition à l'Institut du monde arabe actuellement de Raymond Depardon autour de ces photos pendant la guerre. Mais peut-être s'arrêter à nouveau sur ce travail de restituer ces numéros de historiens. Une fois que vous avez posé avec Philippe Labro, justement, comment vous alliez mener ces chapitres. Ce que j'ai observé dans nombreux chapitres, il y a à la fois le regard mémoriel, évidemment, des groupes, hein, des militaires, des Algériens, des Français qui témoignent. Il y a des images qui sont des images magnifiques, à la fois sur les paysages, mais pas au sens touristique, mais au sens historique, hein, de ce que fut l'Algérie dans cette période-là, dans la période de la guerre. Et il y a aussi des paroles intellectuelles, des paroles d'engagés. Il y a deux figures importantes dans l'engagement de la guerre d'Algérie que je retiens souvent. C'est Albert Camus et Francis Janson.
Oui, tout à fait.
Deux paroles différentes, et évidemment, littéraires et d'engagés pour Janson, le réseau Janson. Un mot autour de la figure d'Albert Camus, à la fois dans le livre et dans l'histoire de la guerre d'Algérie, selon vous, qui est important.
Il y a une figure qui est très décriée et je trouve parfois assez injustement, parce que c'est une belle figure qui a eu un engagement très fort aussi, hein, contre la colonisation depuis ses articles dans Alger Républicain dans les années 30, qui a dénoncé également les massacres du 8 mai 45 et de mai-juin 45, qui a fait vraiment partie des personnes quasi, on va dire, enfin, des très faibles personnes en termes de nombre, mais avec une parole très forte, qui ont dénoncé ces événements-là. Ils sont peu nombreux à l'avoir fait. Et donc, tout ça, en fait, qui dérape à propos d'une parole malheureuse ou en tout cas mal interprétée, qui a fait qu'il a été une figure décriée, alors que c'était quelqu'un qui était, on va dire, très humain, très proche de l'humain, et avec une attention justement aux civils aussi. Et donc il voulait protéger les civils. Son fameux appel à la trêve civile de janvier 56, c'est dans cet aspect-là. C'est la guerre, la libération, pourquoi pas, mais surtout, en fait, ne vous en prenez pas aux civils. Et ça, des deux côtés, évidemment. Donc,
il a été décrié côté algérien, puis côté français aussi, quand même.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc, du coup, son silence a été, je pense, aussi mal interprété après. mais c'était un silence parce que finalement c'était quelque chose d'évidemment qui le déchirait complètement, mais qui a conduit à ce que finalement à ce qu'il préfère ne plus parler,
voilà, se retirer,
et se retirer, ouais. Et donc se retirer parce que autrement ça aurait été trop compliqué et à la rigueur on pourrait dire que sa parole n'était plus entendable. Donc c'est vraiment dommage de ce point de vue là. Et voilà, et évidemment avec une fin dramatique dans son accident. Il y a de très belles photos que j'avais jamais vues auparavant de Camus dans la rue en train de fumer une cigarette, des choses comme ça.
Il aimait tellement Alger.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc ouais. Là, il y a de vraiment de belles photos. Ça fait partie des articles effectivement qui m'ont marqué. Et vous avez raison aussi. L'article avec Janson, c'est vraiment aussi quelque chose qui m'a intéressé beaucoup, hein, qui m'a interpellé.
On va en parler dans un instant. On vous retrouve Tramer Kemener. Je rappelle, vous êtes l'invité de Se Voix au chapitre et nous parlons de la guerre d'Algérie en direct. Les acteurs, les événements, les récits, les images. 500 pages de textes, photos. Et cartes, et voilà, toute la dimension de la guerre d'Algérie est rassemblée là, dans ce livre, par aux éditions Historia et Le Cerf. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Tramer Kemener et nous parlons de ce gros livre, 500 pages, qui vient de paraître, La guerre d'Algérie en direct, c'est paru aux éditions Historia Cerf. Pour les auditeurs et auditrices qui prennent l'émission en cours, je rappelle que ce livre est la restitution des 127 numéros d'Historia qui paraissaient en 1962, 1971 à 1974. Une somme de travail considérable que vous avez menée là, Tramer Kemener, en restituant tous ces numéros dans ce gros volume et qui est présenté avec tous les chapitres dans la période de 1830 à 54, 55, 56, les années défilent, l'histoire défile dans ce bel et gros ouvrage. Et avant de reprendre l'émission, là nous avions évoqué la figure d'Albert Camus, qui était une figure importante dans l'histoire de la guerre d'Algérie. Il en est une autre, c'est celle de Janson. Donc c'est important aussi de parler de Janson.
Oui, tout à fait, bien sûr, Janson, même chose. Alors c'est une figure évidemment qui a aidé le FLN. Donc il fait partie qui a mis en place un réseau
Francis Janson,
voilà, le réseau Janson, effectivement le réseau d'aide au FLN pendant la guerre d'Algérie, donc qui a beaucoup aidé la Fédération de France du FLN de ce point de vue là qui est une figure qui a beaucoup marqué en tant que telle et qui a été aussi très décrié évidemment parce que du côté français
c'était un traître,
hein, voilà. Donc évidemment beaucoup aidé, enfin au contraire valorisé du côté algérien. Et donc là on a aussi deux articles en fait qui concernent Francis Janson, qui font partie aussi des rares articles à mon sens, des premiers articles véritablement sur lui aussi. Il faudra attendre la fin des années 70 après pour avoir le livre évidemment très connu d'Hervé Hamon et de Patrick Grotman, Les porteurs de valises.
Les porteurs de valises,
voilà. Mais ces articles là avec une interview aussi de Francis Janson,
faite par Jacques Simon, qui à l'époque journaliste, mais qui deviendra historien, de spécialiste de l'Algérie, non?
Oui,
Jacques
Simon, voilà, du mouvement national algérien.
Voilà, du MNA, voilà.
Journaliste, militant en tant que tel, bien entendu. Et donc qui ici, ce sont de beaux articles qui permettent de remettre un petit peu en perspective toute l'action justement des porteurs de valises et du procès évidemment aussi où ils ont été jugés. Là, même chose, on a aussi, il y avait tant à dire, en fait, il a fallu faire des choix, c'est terrible. Mais donc, on va avoir d'ailleurs aussi sur le site d'Historia après, il va y avoir la mise en ligne des autres articles. Donc, il y aura une possibilité d'aller les
compléter, voilà. Ce que vous n'avez pas mis dans ces 500 pages.
Exactement, ouais. Donc, c'est, voilà, on va essayer de continuer le travail, on va dire, de ce point de vue-là. Je tenais à souligner deux deux petites choses, enfin en tout cas une, c'est ouais, au niveau du travail, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, du travail photographique, c'est aussi cette somme de photographies, mais de photographies aussi énormément en couleurs. Et donc on replonge vraiment dans les couleurs de l'époque de l'Algérie. C'est moi, c'est ce qui m'a aussi beaucoup interpellé, une telle masse finalement de photographies en couleurs.
Et elles étaient récupérées. L'historien en 73, quand l'historien fait ses numéros, il y a les textes de ces journalistes, de ces reporters qui vont publier. Et les photos sont récupérées où ? Dans des agences de presse ?
Oui,
en France.
Agences de presse. Il y a un peu de tout. On a des photos.
Les agences militaires aussi. Il y a voilà. Oui. De l'armée. Il y a souvent. Alors, il y a beaucoup de photos de l'armée. Donc.
Voilà, armée, Magnum aussi. On a pas mal. Donc, à la fois photographie de l'armée, photographie d'agences de presse, mais également photographie personnelle. Donc on en a quand même un certain nombre de ce point de vue-là aussi. Et je tiens à souligner également, d'ailleurs, photographie tirée des films de René Vautier. Donc on a ici, René Vautier a passé ses photographies pour...
Grande figure aussi de l'Algérie, cinématographiquement parlant.
Ah ouais, exactement, ouais, complètement. Et donc toutes les... Enfin, pas toutes, mais beaucoup de photos qui viennent, qui montrent les maquis algériens, en fait, viennent des fonds de René Vautier en particulier.
Ah, il a fallu aller loin chercher les archives, mais ça donne la diversité justement de la production cinématographique, en tout cas en images, d'après les films de René Vautier, vous venez de le dire, mais aussi ces images, j'ouvre en même temps que nous parlons ce beau livre justement, où il y a les photos en couleur comme vous le dites, des photos en sépia aussi, parce qu'à l'époque c'est le sépia, c'est pas que le noir et blanc, mais voilà, il y a des photos des manifestations, des photos des rassemblements, des photos de la ville, des photos du port d'Alger, des photos des rues d'Alger, et on avance comme ça dans votre livre autour des chapitres jusque dans les années j'ai ouvert le livre et on arrive à 61. Vous l'avez évoqué, il y a la manifestation des Algériens à Paris, mais le combat continue en Algérie. C'est important aussi de parler du 17 octobre 61 parce que là aussi il y a des belles images aussi, si je puis le dire ainsi, de la manifestation. Quand on entend aujourd'hui, 60 ans après, que le 17 octobre 61, il y avait 3 morts et pas des centaines comme on disait, que la manifestation n'était pas aussi importante que cela, on voit bien là la masse des Algériens venus des bidonvilles qui allaient sur les grands boulevards à Paris. Donc on a vraiment dans ce livre, Tremor Kémener, et vraiment je vous en félicite, une somme de travail importante qui donne à comprendre toute l'histoire de la guerre d'Algérie. Et ça c'est... Alors, comprendre l'histoire de la guerre d'Algérie 60 ans après, quel sens ça a ? C'est à destination de qui ? Voilà, je raconte tout ça pour revenir à cette question essentielle, il me semble. Ouais. C'est que si 60 ans après, on célèbre aussi fortement la fin de la guerre d'Algérie, ce rapport de Benjamin Storas, ces livres, près de 30 livres paraissent en ce début d'année 2022, c'est dire l'importance de dire encore l'histoire pour qu'elle soit apaisée aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il y a un besoin de compréhension, je crois, dans nos sociétés algériennes et françaises. Il y a un besoin de compréhension, un besoin de mieux connaître ce conflit, je crois, particulièrement en France, parce que on va dire, mais je pense que du côté algérien, c'est la même chose aussi, hein, vraiment un besoin de compréhension et un besoin de mieux connaître, même si les mémoires sont pas les mêmes. Donc voilà, je connais mieux évidemment le côté français et je publie en France. Malheureusement, je vois aussi beaucoup sur les réseaux sociaux beaucoup d'Algériens qui aimeraient bien pouvoir avoir aussi l'accès à ces livres-là. Ça me désole évidemment à certains moments de
Vous avez rencontré déjà des historiens algériens au
travail? Oui, bien sûr. Je travaille régulièrement avec eux effectivement et alors à la fois des étudiants, des jeunes chercheurs, des chercheurs plus confirmés, je travaille beaucoup avec eux.
C'est important cet échange d'historiens.
Ah oui, bien sûr, ouais, bien
sûr. Pour l'histoire.
Il faut continuer sur cet aspect-là et on n'en fera jamais assez. Alors avec le rapport Stora là, depuis l'année dernière, en fait, il y a eu les premières bourses aussi André Mandouze, ouais. Qui sont des bourses en fait à destination des étudiants et des jeunes chercheurs algériens.
C'était une des préconisations de Benjamin Stora dans son rapport, effectivement,
et donc,
important.
Ça me paraît aussi une des résolutions vraiment importantes de ce point de vue-là, parce que ça peut permettre aussi à des jeunes Algériens de venir étudier sur les archives en France. Et ça, je sais que c'est un de leurs manques cruels, en fait, de ne pas pouvoir accéder aux archives. Le fait de pouvoir se déplacer, de venir en France et de venir consulter les archives, c'est quelque chose d'important.
Et la commission Mémoire et Vérité qui naît au suite au rapport de Benjamin Stora, comment vous travaillez?
Alors, c'est surtout en fait à travers différentes réalisations qui ont pu se faire. J'ai été en particulier chargé d'organiser le colloque qui s'est déroulé à
l'Institut du monde arabe et à la BNF.
Effectivement, vous avez raison, à l'Institut du monde arabe et à la BNF dans l'ordre, en janvier dernier. D'ailleurs, c'était pour le deuxième jour, c'était le jour de commémoration, si on peut dire, de l'appel à la trêve civile d'Albert Camus. Et c'était aussi sur ces figures de l'opposition intellectuelle à la colonisation et la guerre d'Algérie. Donc c'était un petit peu, évidemment, passant. En lien et sans rapport avec tout ça que j'avais organisé ce colloque-là et en pensant à cette date-là aussi. Et donc on a pu aborder des figures comme Francis Janson, bien entendu.
Germaine Tillion aussi peut-être.
Germaine Tillion également.
Grande dame aussi de l'Algérie.
Ou alors j'ai même aussi parlé du général de Bollardière par exemple, ouais. Le manifeste des 121 évidemment. Enfin donc il y a eu, et on est revenu sur la très longue période puisqu'on est revenu sur les Saint-Simoniens par exemple aussi. Donc vraiment sur toute une galerie en fait de personnages qui sont malheureusement trop occultés justement, et c'est là que c'est intéressant aussi de voir, parce que finalement on parle beaucoup de l'Algérie, de la répression, des choses comme ça, mais finalement toutes les figures aussi de l'opposition à des moments, elles ont malheureusement été très longuement occultées. Et quand moi je travaillais sur les questions de désobéissance pendant la guerre d'Algérie, c'était un fait qui était vraiment minoré complètement, et tous les aspects justement aussi des intellectuels, on connaît évidemment la figure de Sartre par exemple, on connaît moins déjà le rôle des porteurs de valises et qui ils étaient aussi, et il y a d'autres figures qui étaient vraiment, qui ont eu des voix importantes et qui sont finalement quelque peu occultées aujourd'hui. Donc il faut aussi continuer à travailler pour mieux montrer un peu aussi toute la variété des positions qu'il y a pu y avoir et tout ce qui s'est passé. Et donc là, il y a non seulement ça pour tout à chacun, on va dire, les acteurs de l'époque, les témoins de l'époque qui continuent à s'informer là-dessus, parce que je pense qu'ils continuent à apprendre et c'est très bien, mais également pour les enfants et les petits-enfants.
Alors c'est ce que j'allais dire, et pour les nouvelles générations, il est important de connaître leur histoire, quand on sait qu'un Français sur quatre a des liens avec l'Algérie, qu'il soit descendant de cette immigration algérienne, qu'il soit descendant des appelés, descendant des harkis, descendant des pieds noirs, etc. Donc toute cette descendance et franco-français, il faut le dire aussi. L'Algérie est une histoire de France aussi, donc il faut aussi que dans les manuels scolaires, dans les travaux universitaires, s'opère une vraie connaissance de ce que fut la guerre d'Algérie, pour la nommer ainsi, en matière d'information en France. Donc c'est important qu'on le dise de plus en plus, ce qui se passe ce qu'était la guerre d'Algérie dans les manuels scolaires aujourd'hui.
Oui.
Il y a très peu. Il y a eu deux lignes, après il y a eu un petit paragraphe, après il y a une demi-page. C'est pas assez encore.
Ça avance. Plus ça avance. Ouais. Dans les programmes scolaires, du début des années 80, 83 pour le premier manuel qui parlait de l'Algérie, avec des choses qui allaient assez loin aussi. Hein. Il était question de la torture déjà, des choses comme ça. Au fur et à mesure, donc il y a eu une évolution, mais ça restait très faible, on va dire, en matière de, et surtout, c'est pas tant dans les programmes. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait des programmes,
bien
parce
sûr.
Que évidemment dans les classes, parfois c'était une des questions qui était complètement zappée. Et donc, à un moment donné aussi, c'était un peu au choix entre telle ou telle décolonisation.
Tel conflit, voilà, c'est
donc,
ça.
Donc, finalement, la guerre d'Algérie, on évitait d'en parler. Aujourd'hui, ça y est, les derniers programmes scolaires entrent vraiment dans, beaucoup plus dans le détail, et non seulement de la guerre d'Algérie, mais également de toute la question coloniale. Donc, ça commence à vraiment rentrer bien.
Merci, Tramer Kemener, d'être venu ce dimanche matin nous présenter La guerre d'Algérie en direct. Je le rappelle, c'est le titre de votre livre. Il est paru aux éditions Historia, Le Cerf. Et vous m'avez apporté aussi Mourir à sa quête, enquête sur un appel dans la guerre d'Algérie, qui vient de paraître aux éditions PUF, un livre écrit avec Véronique Gazot-Godet, Mourir à sa quête, enquête sur un appel dans la guerre d'Algérie. Vous m'avez apporté aussi le tout nouveau Historia, spécial guerre d'Algérie, le choc des mémoires, un magazine qui vient de paraître, et je ne peux évidemment pas oublier de parler du documentaire de Georges Marc Benamou et Benjamin Stora. C'était la guerre d'Algérie, qui va être diffusée ce lundi et mardi sur France 2, donc 3,52 minutes le lundi et 2,52 minutes le mardi. C'est des documentaires importants pour l'histoire et pour comprendre, comme on aime à le répéter ce matin, comprendre la guerre d'Algérie. Un numéro spécial aussi du Nouvel Observateur, l'Afrique coloniale 1830-1962. C'est un numéro hors série de la conquête au conflit armé avec des contributions de journalistes, d'historiens et surtout de très belles illustrations de Jacques Ferrandez. Un point de vue nécessaire pour comprendre ce que fut depuis 1830 la colonisation. Voilà pour nos informations ce matin. Au revoir. Tramer Kemendar, merci d'être venu à Beurre FM ce dimanche matin. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.